VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, bilan de l'attaque d'un camp de l'armée hier au Niger. 18 soldats ont été tués et 4 sont disparus. Dans le centre du Nigeria, au moins 45 morts et plus de 100 brûlés grièvement alors que la population essayait de dérober du carburant d'un camion citerne. Manifestation des Falasha en Israël après la mort d'un jeune Israélien d'origine éthiopienne. La Chine a condamné les manifestations violentes à Hong Kong comme un défi non dissimulé. Nous ferons aussi le point sur la CAN avec Yacouba Ouédraogo dans un peu plus de 10 minutes. Mais d'abord, le journal. Au Niger, 18 soldats ont été tués hier et 4 autres sont portés disparus lors de l'attaque d'un camp militaire dans la zone d'Inates, près de la frontière du Mali. 2 véhicules kamikazes ont d'abord explosé à l'entrée du camp, suivis des tirs des assaillants venus à moto. C'est dans cette même zone que 18 combattants du groupe État islamique dans le Grand Sahara ont été tués lors d'une récente opération. Pour une mise en contexte, Bagassi Koura joint Moussa Aksar, spécialiste des questions de terrorisme à Niamey.
C'est là qu'il y a eu une opération militaire qui a duré plusieurs jours où la force Barkhane, ses alliés du Mali et du Niger se sont entendus pour porter le coup aux djihadistes qui se trouvent être dans cette zone-là, dans une forêt. Et là, ils ont fait plus de 18 morts, et 18 morts selon les autorités. Et donc, il fallait s'attendre vraiment à une attaque de ces djihadistes-là dans cette zone-là parce que c'était une opération chirurgicale qui leur a été menée par la force Barkhane et ses alliés du Niger et du Mali.
Alors donc vous êtes en train de dire que cette attaque ce lundi ressemble bien à une opération de représailles.
Oui, c'est une action de représailles parce qu'un coup leur a été porté et ils voulaient mener une action d'éclat pour avant les cérémonies de l'Organisation de l'Unité Africaine qui doit se tenir ici à Niamey. Ils voulaient faire un coup d'éclat. C'est pour cela qu'ils ont cherché à attaquer des postes isolés pour faire plus de mal.
C'était Moussa Aksar, spécialiste des questions de terrorisme à Niamey. Au Nigeria, au moins 45 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées dans le centre du pays lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui a explosé. Ekiabadou.
45 personnes sont mortes et plus de 100 autres ont subi de graves brûlures, d'après Aliou Baba, commandant de sécurité routière de l'État de Benoué. Auparavant, un porte-parole des autorités locales avait annoncé plus de 64 morts. Le camion s'est renversé hier après-midi alors qu'il traversait le village d'Aoumbé dans l'État central du Benoué. Les habitants se sont alors précipités pour récupérer le carburant qui fuyait de la citerne. Un autocar chargé de passagers a tenté de passer. Son pot d'échappement a raclé le sol, provoquant des étincelles qui ont enflammé le carburant. La citerne a pris feu et un immeuble a été soufflé par l'explosion. En janvier, au moins 8 personnes sont mortes dans des circonstances similaires à Adumpani, dans l'état du Cross River dans le sud-est. Au mois de mai, le même scénario s'était produit près de l'aéroport de Niamey au Niger, faisant au moins 70 morts.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a fait face à la presse ce mardi à Bunia, dans la province de l'Ituri. Il a évoqué tous les sujets d'actualité qui ont marqué les 6 premiers mois de son mandat, mais toujours pas de date pour la formation du gouvernement, ni de détails sur l'accord qui le lie à son prédécesseur, Joseph Kabila. Nous faisons le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au plan sécuritaire, en raison de sa présence à Bunia en Ituri, Félix Tshisekedi a qualifié les tueries civiles perpétrées à Djougou de tentatives de génocide. Mais le président de la République a tendu la main aux miliciens qui y opèrent. Il les appelle à déposer les armes. Au plan politique, le chef de l'État a rejeté la proposition de sortie de crise faite par Martin Fayulu qui consistait, selon le candidat de la coalition Lamuka à la dernière présidentielle, à mettre en place un haut conseil national de réforme des institutions qu'il dirige. Le Parlement est l'endroit indiqué pour proposer et discuter de réformes institutionnelles. Fayulu est un élu du peuple, un député national. Il peut y amener ce projet, mais pour moi ce n'est pas opportun, a dit d'un ton ferme Félix Tshisekedi. Il a par ailleurs appelé l'opposition à se formaliser pour jouer un rôle de contrepoids du pouvoir. Je voudrais sous mon mandat consulter l'opposition comme cela se fait dans les vieilles démocraties chaque fois qu'il le faudra. Félix Tshisekedi a aussi assumé les quelques échecs et ratés de son début de mandat, notamment dans la réalisation de certains travaux lancés dans le cadre de son projet des 100 premiers jours. La gestion par la présidence de la République des finances publiques, la construction du pont route rail Kinshasa-Brazzaville et du port en eau profonde de Banana sont d'autres sujets évoqués par le président de la République dans cette première conférence de presse qui a duré près d'une heure. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Soudan, les médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine ont annoncé avoir invité les généraux et la contestation à reprendre les négociations demain mercredi afin de définir les grandes lignes de la transition. Le point de divergence porte sur la composition de la future instance devant diriger la transition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Charles Michel a été choisi aujourd'hui pour succéder à Donald Tusk à la tête du Conseil européen, le cénacle des dirigeants de l'Union européenne. Charles Michel est le premier ministre de la Belgique depuis octobre 2014, à la tête d'un gouvernement démissionnaire depuis 6 mois. Ministre à 25 ans, premier ministre à 38, ce libéral francophone, âgé aujourd'hui de 43 ans, a rapidement gravi les échelons à l'ombre de son père, l'ex-commissaire européen Louis Michel. Très rapidement, Washington pourrait suspendre ses ventes d'armes aux Émirats arabes unis s'il était avéré que ce pays a transféré des missiles américains à des forces rebelles libyennes. C'est une lettre adressée au secrétaire d'État Mike Pompeo par Robert Menendez, le numéro 2 de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. En Israël, il y a eu depuis hier des manifestations après la mort d'un jeune Israélien d'origine éthiopienne. Il a été tué dans des circonstances encore mal établies par un policier qui n'était pas en service. Jacques Aristide.
La mort de Solomon Teka dimanche soir a ravivé dans la communauté d'origine éthiopienne les accusations de racisme. Des Israéliens d'origine éthiopienne ont affronté jusqu'à tard dans la nuit hier les forces de l'ordre. De nouveaux mouvements de protestation étaient prévus ce mardi, jour où Solomon Teka doit être enterré. Dans sa version initiale, la police a rapporté que le policier avait tenté de s'interposer lors d'une bagarre et a ouvert le feu parce qu'il se sentait menacé. Mais des témoins ont contesté la thèse de l'agression du policier. Des membres de la communauté juive éthiopienne disent que les jeunes vivent dans la crainte permanente des traitements policiers parce qu'ils sont noirs. La police n'a procédé à aucune arrestation et fait profil bas pour ne pas enflammer les passions, d'après un porte-parole. La communauté éthiopienne compte environ 140 000 membres, dont plus de 50 000 sont nés en Israël.
La Chine a condamné aujourd'hui les manifestations violentes à Hong Kong comme un défi non dissimulé, quelques heures après que la police ait tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants qui ont pris d'assaut et détruit le Parlement. Raissa Girondin.
La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a dénoncé l'invasion extrêmement violente du Parlement. Beijing réclame une enquête pénale sur ce défi sans précédent à son autorité. Londres a de son côté mis en garde Beijing, soulignant que toute entrave aux libertés à Hong Kong aurait des conséquences graves. La colère des contestataires a pris un tour quand des groupes de manifestants ont fait irruption dans le Parlement de la mégapole. Ils y ont déployé le drapeau de l'ère coloniale britannique, arraché les portraits des dirigeants de Hong Kong et maculé les murs de graffiti. Hong Kong est le théâtre de manifestations monstres depuis plusieurs semaines contre une proposition de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Ces manifestations ont poussé les autorités de la ville à suspendre l'examen du texte. Les contestataires veulent qu'il soit totalement abandonné et ont pressé la dirigeante hongkongaise Carrie Lam de démissionner. Ce lundi était le 22e anniversaire de la passation des pouvoirs de l'ancienne colonie britannique à la Chine en 1997.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. suite, c'est le journal de la CAN avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le journal de la CAN. Le Ghana a doublé sur le fil le Cameroun tenant du titre deuxième et le Bénin troisième mais qualifié pour terminer en tête de leur poule E. De la CAN, les Lions Indomptables joueront un choc face au Nigeria en huitième. Les Black Stars vainqueurs de la Guinée-Bissau 2-0 à Suez passent devant les Camerounais tenus en échec par les Béninois 0-0 à Ismaïlia. Le Ghana affrontera le deuxième du groupe E, celui du Mali et de la Tunisie. Et justement, tout à l'heure à 19h temps universel, la Tunisie voudrait arracher son ticket pour les huitièmes devant la Mauritanie. Le sélectionneur des Aigles de Carthage a dû ne pas négliger les Mourabitoun. Alain Giresse.
Affronter un adversaire comme la Mauritanie, c'est le prendre avec beaucoup de sérieux, de préparation, et c'est ce que nous sommes en train de faire, surtout pas négliger, on sait que le match est important, on en a conscience, et justement, la préparation est axée sur ce match et l'importance qu'il a.
Toujours dans cette même poule E, le Mali fera face à l'Angola à 19h, temps universel. Et puis, ce sera finalement la Côte d'Ivoire qui accompagnera le Maroc en huitième de finale dans le groupe D. Les éléphants se sont imposés dans leur finale face à la Namibie battue 4-1. Mission accomplie pour les Ivoiriens.
Et qualif, c'était un objectif qu'on s'était fixé, déjà sorti de premier tour, comme j'ai dit, 2017, ça a été difficile pour tout le monde. Donc, il fallait déjà sortir de là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Tombe dans des matchs à élimination directe. Qui sont autre chose. Il n'y a pas trois matchs, il n'y en a qu'un seul. Donc on va travailler, on va se souder les coudes et puis on prendra les matchs les uns après les autres.
Dans l'autre rencontre du groupe B, le Maroc déjà qualifié s'est contenté du service minimum face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud battu 1-0. Les Lions de l'Atlas terminent ainsi premier de la poule D devant la Côte d'Ivoire deuxième. Le scénario était identique pour les Lions de la Teranga qui ont réussi à s'imposer 3-0 devant le Kenya pour finir à la deuxième place du groupe C, qualificative pour les huitièmes de finale. La star sénégalaise Sadio Mané a raté un pénalty en cours du jeu avant d'inscrire un doublé. L'attaquant de Liverpool dit jouer sans pression.
Moi, dans ma tête, je suis quelqu'un de très, très relax. Par contre, vous avez douté plus tôt, mais moi, je ne connais pas le mot douter. Ça peut arriver dans le foot, de rater un pénalty, mais je pense qu'après, le plus important, c'est la réaction. Et je pense qu'en tant qu'équipe, on a bien réagi et on s'est créé pas mal d'occasions. Aussi, je pense qu'on mérite de gagner ce soir, même si au début de match, ça n'a pas été évident pour nous. C'est tout à fait normal parce que c'est une équipe qui court beaucoup et une équipe qui était bien en place. Donc, il ne faut pas penser que ça aurait été si facile.
Le succès des coéquipiers de Sadio Mané fait le bonheur de la RDC qui rejoint aussi les huitièmes. Le Maghreb s'en sort mieux dans cette poule de la CAN, comme nous le dit Jules Valentin Ngoué dans son coup de sifflet depuis Libreville au Gabon.
10 jours après le début de la compétition, le grand constat est sans conteste la domination des équipes du nord du continent qui semblent avoir marqué leur territoire. Sur les 11 matchs joués contre les formations subsahariennes, l'Afrique du Nord en a gagné 9 et juste concédé 2 nuls. L'analyse de la qualité de la production est encore plus probante. Comme souvent, l'avantage de l'Afrique du Nord a reposé sur la technique individuelle et collective de formation acquise à un football latin fait de précision et d'automatisme, là où leurs homologues du sud du Sahara, moins spontanés, n'ont à opposer que la pression physique et la vitesse. Si la Tunisie, plus fragile, a dû partager les temps forts avec l'Angola et le Mali, le Maroc comme l'Égypte, plus solide et équilibré, ont fait valoir leur supériorité technique devant la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Ouganda et l'Afrique du Sud, et même si les pharaons ont paru un peu salade dépendants. C'est l'Algérie qui a rendu la copie la plus parfaite en dominant le Sénégal lors de la seconde rencontre, même dans le domaine qui lui semblait acquis, comme la puissance physique, la bataille des airs, les duels ou la vitesse. En cela, elle rejoint la grande équipe d'Égypte de 2006-2010 qui, en réussissant cet amalgame, avait gagné 3 CAN d'affilée. La large victoire contre la Tanzanie, malgré un turnover, confirme son statut de favori. Mais rien n'est encore joué. Les défaites d'aujourd'hui peuvent préparer les succès de demain. Comme ce fut le cas pour le Cameroun en 84 et l'Égypte en 86, qui perdirent le premier match avant de brandir le trophée. D'ailleurs, le Sénégal s'est bien repris face au Kenya en l'écrasant par 3-0.
Toujours dans l'actualité de la CAN, le président malgache Ange Radjouel a affrété un avion spécial de 480 sièges pour les supporters de l'équipe nationale qui souhaitent assister dimanche en Égypte, donc à son match de 8e de finale. Le voyage n'est pas cependant gratuit. Il faudra débourser 525 euros. Voilà, c'est tout pour le journal de la CAN.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui qu'expire l'ultimatum donné aux creuseurs artisanaux pour quitter la mine de KCC, entendez par là Kamoto Cooper Company, à Kové dans la province de Lualaba dans le sud. Plus de 45 de ces creuseurs sont morts dans un éboulement la semaine dernière. Eddy Sango a joint à Kolwezi le gouverneur de Lualaba, Richard Mugege Maïs Mugege.
Nous avons identifié quelques types de relocalisation et nous sommes en train de définir des structures pour garantir leur encadrement et leur reconversion à d'autres activités, essentiellement l'agriculture. Parce que nous estimons que de sortir de cette chose, de leur trouver de nouvelles structures pour leur permettre d'accéder autrement aux moyens de vivre, c'est la chose la plus importante. Et nous sommes en train de venir nous concentrer là-dessus pour confirmer des dispositions qui ont été évoquées par différents intervenants. Et je crois que nous sommes en train de tendre vers la solution. C'est un processus, ça nous prendra quelques temps, mais nous sommes convaincus que d'ici un semestre, nous réaliserons totalement leurs rêves. Mais au même moment, nous sommes en train d'organiser la désouverture sur plusieurs sites qui leur sont destinés. Je pense qu'il y a une dizaine de sites miniers qui leur sont destinés pour qu'ils évitent d'aller dans des sites privés et qu'ils restent sur leur site.
Mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. On a pris des dispositions, toutes les autres fois. Mais qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, ça sera la solution définitive au moins?
C'est arrivé il y a quelques temps, mais c'était des statistiques assez légères. Ce n'était pas très fréquent. Le problème s'est accentué maintenant avec les flux migratoires. Le problème semble avoir pris beaucoup d'ampleur. Et les dispositions que nous prenons, c'est la première fois que nous les prenons. C'est depuis un certain temps que le gouvernement de la République a mis à notre disposition des sites miniers destinés aux creuseurs, mais nous avions des difficultés pour trouver le financement, à même de soutenir ce programme de développement. Il y a une société qui a répondu très positivement, c'est une société chinoise, Chicomine. Il y a des privés qui viennent aussi parce que nous avons bien expliqué les choses. C'est depuis 2 ans que nous avons lancé la grâce et c'est maintenant que les gens commencent à répondre. Donc c'est la toute première fois que le gouvernement provincial va entreprendre le travail de désouverture pour viabiliser ces sites et les mettre à la disposition des creuseurs. Ils viennent aussi dans le cadre des structures d'encadrement et de reconversion en province.
On a entendu plusieurs chiffres avancés aussi bien par la société civile que d'autres structures, mais aujourd'hui, quel est le bilan des nombres de gens qui sont décédés et blessés?
Moi, j'ai beaucoup de respect pour les morts. Je suis étonné que les ONG se lancent dans ce débat de comptabilité des morts en cherchant les professionnels. Celui qui avait enterré ces jeunes gens, nous avons vraiment enterré 48. Nous savons qu'il y en a 19 qui sont dans les hôpitaux. D'ailleurs, parmi ces blessés, il y en a qui sortent déjà.
C'était Richard Mugege Maïs Mugege, le gouverneur de Lualaba. Il était joint à Kolwezi.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Trois ONG installées en Ouganda ont porté plainte devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est demandant que l'Ouganda et le Rwanda dédommagent financièrement tous ceux qui sont pénalisés par la fermeture partielle de la frontière entre les deux pays. Reportage Alima Atoumani, récit Lionel Gaïma.
Le Rwanda interdit depuis le 27 février à ses ressortissants de traverser la frontière, qui est également fermée aux Ougandais. 4 mois plus tard, le poste frontière de Gatuna à Katuna est toujours fermé sur une route commerciale essentielle de la région. 3 organisations de la société civile, l'Institut Est-Africain pour le Commerce et les Négociations, l'Initiative Est-Africaine pour l'Avancement des Femmes et le Centre Ougandais pour le Droit de la Nourriture et aux Conditions de Vie Adéquates ont déposé une plainte le 21 juin devant la Cour des États de l'Afrique de l'Est qui doit fixer une date pour la première audience. Sheila Kawamara, directrice exécutive de l'initiative est-africaine pour l'avancement des femmes.
Le procès contre les deux gouvernements a pour but de s'assurer que les pertes encourues par ceux qui vivent du commerce, les agriculteurs, les citoyens et la société dans son ensemble fassent l'objet d'un audit et que les parties concernées soient dédommagées de manière adéquate.
Hassan Semiraho faisait du commerce transfrontalier depuis 10 ans, exportant de graines, des haricots et de la farine vers le Rwanda. Maintenant, ses affaires subissent le plein fouet, les effets de la fermeture de la frontière.
Du côté rwandais, on leur permet de ramener leurs produits chez eux. Mais de notre côté, même si vous revenez de la douane rwandaise avec quelques sacs de haricots, on ne vous permet pas de les faire entrer dans notre pays. Si le gouvernement peut faire quelque chose, je pense qu'il devrait nous dédommager.
En juin, le Rwanda a rouvert sa frontière aux camions pour seulement 12 jours. D'après le ministère ougandais du commerce, les exportations vers le Rwanda ont chuté de 860 millions de dollars jusqu'à quelque 200 millions de dollars depuis la fermeture de la frontière. Kigali signale des pertes de l'ordre de 104 millions de dollars. Amelia Kiambadé, ministre ougandais du commerce et de l'industrie.
Je conseillerais aux Ougandais d'essayer d'autres routes. À un moment donné, j'avais même suggéré la RDC, mais là-bas aussi, nous avons le virus Ebola. Mais nous continuons les discussions de haut niveau avec le Rwanda.
Les tensions entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni, autrefois proches alliés, se sont aggravées ces derniers mois, les deux pays s'accusant mutuellement d'ingérence politique et d'espionnage.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les chefs d'État de la CEDEAO ont entériné le projet de création d'une monnaie commune régionale en 2020. Si beaucoup saluent cette initiative, elle suscite aussi beaucoup de scepticisme chez certains. À ce sujet, Abdourahmane Dia a joint à Dakar la militante anti-France-CFA et porte-parole d'urgence panafricaniste Ndeye Babel So.
Un pas d'intégration. L'intégration ne peut être que bénéfique, que ce soit économiquement, que ce soit monétairement. C'est quelque chose vraiment à apprécier quand les États vraiment se concertent et décident de mettre en place un mécanisme qui les rassemble. Sur cette base de concertation, vraiment, c'est une belle chose.
En tant que militante anti-CFA, le CFA que vous considérez comme une monnaie coloniale, est-ce que pour vous c'est la réponse que vous attendiez, donc une monnaie régionale, pas seulement la suppression du CFA?
Moi, je pense que le passage du franc CFA vers l'éco, ce n'est qu'une reproduction du franc CFA qui porte un autre nom. Le seul point positif qui pourrait y exister étant l'intégration, sachant que nous ne sommes pas contre le franc CFA parce que ça s'appelle franc CFA, mais nous sommes contre le franc CFA pour la bonne et simple raison que déjà la production de la monnaie, l'origine de la production chamalière, déjà l'arrimage, 50% de nos réserves qui se trouvent au trésor public français. Alors aujourd'hui, si les présidents des pays africains comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui soutiennent le franc CFA soutiennent aussi l'éco, eh bien ça signifie que le franc CFA n'est rien d'autre que l'éco n'est rien d'autre qu'une pâle copie du franc CFA.
Il y a aussi des pays comme le Nigeria et le Ghana qui sont dans le projet.
Exactement. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les grands enjeux du franc CFA, c'est d'abord un problème de production. Comme vous le savez, le débat a été posé par rapport au pays qui doit produire. Enfin, on a parlé du Nigeria. Là, le grand hic qui se pose, c'est que le Maroc veut s'incruster. Alors qu'on sait tous que le Maroc, déjà économiquement, veut avoir une emprise sur le Sénégal. Et historiquement, le Maroc avait voulu entrer en proposant à cette Union européenne-là d'être la vitrine vers l'Afrique.
Donc vous avez des suspicions juste parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, par exemple, soutiennent ce projet?
Ce ne sont pas des suspicions. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des faits. Les faits sont que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les premiers pays qui ont défendu farouchement le CFA en Afrique et en France. Ce sont aussi ces deux pays-là qui aujourd'hui défendent, applaudissent et poussent l'écho pour que ce soit notre monnaie. Si nous passons par le syllogisme, on se dit qu'alors il y a forcément un lien entre le franc CFA et l'écho.
C'était Ndeye Babelso, porte-parole d'Urgence panafricaniste.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, zoom sur la monnaie ouest-africaine que les 15 pays de la CEDEAO entendent mettre en place en 2020. Ce projet, vieux de plus de 35 ans, a pour but de faciliter les échanges et aboutir à une meilleure intégration régionale. Les 8 pays ouest-africains utilisant le CFA sont-ils prêts à abandonner leur monnaie commune pour l'écho? Tous les pays seront-ils prêts à temps? Quels sont les critères de convergence pour intégrer la zone éco? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Réagissez également sur la page Facebook de VOA Afrique.
Lors de la prise de ses fonctions comme président du Zimbabwe en 2017, Emmerson Mnangagwa avait promis des milliards de dollars en investissements étrangers pour relancer l'économie moribonde. Les responsables zimbabwéens reconnaissent aujourd'hui que beaucoup reste à faire pour que les investisseurs injectent de l'argent. À Bulawayo, la seconde ville du pays, le reportage de Columbus Mavunga, le récit est d'Eric Manirakiza.
Cold Storage Company est une entreprise publique. À son apogée, elle était le plus gros exportateur de bœufs africains vers les pays de l'Union européenne. Actuellement, cette société ne produit plus rien. Ses congélateurs sont vides. Un investisseur britannique a exprimé son intérêt à reprendre la société. Depuis, plus aucune information précise sur cette transaction. Zelifa Moyo, âgée de 45 ans et mère de 2 enfants, elle espère que la société rouvrira ses portes bientôt.
Si CSC, la société de stockage à froid, rouvre, je vais chercher du travail dans le nettoyage car vendre des marchandises ne me permet pas d'obtenir des profits pour survivre. Il n'y a pas de profit car les prix des marchandises ne cessent de grimper et je ne suis pas en mesure de renouveler le stock comme je le veux.
La situation est si sombre que le Fonds national de développement de la jeunesse du Zimbabwe, dont le siège est à Bulawayo, a cessé de dire aux jeunes de compter sur les investisseurs étrangers pour créer des entreprises dans cette partie du pays. Suivez Liberty Bébé.
For us, it's a matter of trying to get young people to be creative, because you see.
Pour nous, il s'agit d'inciter les jeunes à faire preuve de créativité, car les investisseurs veulent aussi voir ce que font les habitants pour investir dans leur propre économie. Vous savez, cela coûte cher aux jeunes de se lancer dans les affaires, et encore plus pour que les étrangers s'y lancent aussi.
Stevenson Okule Dlamini est économiste et maître de conférence à l'Université nationale des sciences et technologies du Zimbabwe. Selon lui, les autres éléments qui découragent les investisseurs au Zimbabwe sont l'instabilité économique, la corruption et les lois anti-investissement hostiles aux investisseurs, y compris une loi qui exige de l'actionnariat majoritaire dans toute entreprise du pays par des Noirs du Zimbabwe. Il dit que cela doit changer.
Les expériences précédentes avaient révélé de nombreuses incohérences dans les politiques menées et les investisseurs ne l'ont pas encore oublié. Nous devons maintenant les convaincre que nos politiques sont cohérentes et qu'ils doivent les respecter pendant une période donnée.
Le président Mnangagwa a mis en place un comité consultatif pour apporter des éclaircissements concernant les préoccupations des investisseurs. Boussissa Moyo est un industriel et membre de ce comité. Selon lui, il faudra du temps pour renforcer la confiance des investisseurs après le régime autocratique du président Robert Mugabe.
Nous voyons beaucoup de touristes, nous avons des investisseurs qui nous appellent maintenant. Oui, ils ne font que prendre des engagements, mais ils commencent à se renseigner maintenant. Alors qu'avant, personne n'appelait, personne ne demandait. Personne ne cherchait des opportunités. et nous parlons de très grandes institutions.
Aujourd'hui, les Zimbabwéens veulent voir des actions, une croissance dans le taux d'emploi et une stabilité des prix. Pour la plupart des Zimbabwéens qui ont souffert pendant 20 ans d'une économie chroniquement défaillante, l'heure du changement a sonné.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Carl Sterling. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com et notre page Facebook, bien sûr. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.